On se présente très rapidement. On va vous présenter un petit peu le dispositif d'un café philo. Alors, sachant que le dispositif là ce soir est un petit peu différent de celui que qu'on anime mensuellement, Laurence et moi.
Moi je suis Laurence Lacroix, je suis professeure de philosophie au lycée Voltaire à Orléans. Et donc, depuis un certain nombre d'années, avec Nicolas. Donc,
je suis Nicolas Déré, je suis professeur de philosophie au lycée Jean Zay à Orléans.
Voilà. Et donc, nous animons à tour de rôle, en fait, les cafés philo qui ont lieu une fois par mois au lycée Jean Zay, donc en cœur de ville. Donc, ce qui est très agréable à chaque fois, ne serait-ce que de s'y rendre. Et ce soir, c'est une première, parce que c'est assez rare qu'on passe, on fait pour rentrer en fête et puis pour les associations. Ce soir, ça sera une co-animation. Mais en règle générale, c'est soit l'un, soit l'autre. Et nous avons un troisième collègue qui s'est joint à nous, Sylvain Teuil. Donc, en fait, nous animons à trois animateurs. Voilà.
Alors le café philo, il se tient habituellement, on essaie de garder ce rythme-là, le deuxième mardi de chaque mois. Alors ça peut varier parce qu'il y a les vacances scolaires. Il se tient au lycée Jean Zay qui nous accueille gracieusement dans la grande salle du lycée Jean Zay. Et le public peut y entrer par
la rue
le parvis de la petite église.
Par la rue de l'église Saint-Vincent.
La rue de l'église Saint-Vincent, merci.
Et si vous voulez avoir notre programme, je vous conseille d'aller voir notre site philomania.fr, c'est tout simple. Sur notre site, vous aurez le programme, des cafés philo, des conférences. On aura trois conférenciers plutôt prestigieux cette année, puisqu'on aura François Héran au mois de janvier, Gérald de Brenner en avril et Souleymane Bachirdian en juin. Et sur notre site, vous trouverez aussi des enregistrements des précédents cafés philo et de certaines conférences. Donc le conférencier nous a donné son accord pour qu'on mette l'enregistrement en ligne. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site.
Et sur le site, vous trouverez les thèmes qui ont été traités dans les derniers cafés philo et les enregistrements de chaque café philo. Alors comment ça fonctionne un café philo, du moins tel qu'on l'a mis en place à Philomania? Philomania entre dans sa 11e année. Ça commence à avoir un petit peu de, on commence à avoir un petit peu de recul. Le principe c'est le suivant, c'est que, alors là c'est un petit peu différent ce soir, c'est que le public vient avec, ou pas d'ailleurs évidemment, avec ses questions, ses problématiques, soit sous forme d'interrogation, soit sous forme d'expression, en termes de termes même. Et le sujet n'est pas donné d'une fois sur l'autre. Donc, le sujet n'est pas prédéterminé. Et le soir même, le public présent propose ses questions. On les note. On tourne autour de entre 7, 8, 10 sujets au choix. Et c'est le public qui choisit la thématique, la question qui sera traitée et débattue le soir même. Ça signifie que bonsoir, que ce soit Laurence ou moi, nous découvrons le sujet de jour J, au moment où vous allez le proposer, au moment où vous allez voter. Et ça a, à mon avis, un double intérêt, même un triple intérêt, c'est que ça permet. D'abord, c'est vous qui êtes en charge du sujet, enfin, c'est le public qui est en charge du sujet. Ça évite que l'animateur, l'animatrice prépare le sujet dans son coin et finalement transcende un petit peu le café philo, qui est un lieu de partage et de co-construction du débat. Finalement, ça évite de transformer ce café philo en une sorte de cours de philosophie. Et ça évite aussi d'ailleurs que les habitués du café philo préparent le sujet de leur côté et que ça soit un discours de citation et de je ne sais quoi. Alors ce soir, comme on est dans le cadre des journées pour et autour du bénévolat, on nous a demandé d'avoir la thématique de vivre ensemble. Et on s'est dit avec Laurence qu'on allait légèrement aménager le processus. C'est-à-dire qu'on va vous proposer trois sujets qu'on a prédéterminés autour de la question de vivre ensemble, de l'engagement et l'action bénévole. Et puis, vous allez choisir le sujet qui vous semble le plus intéressant, en tout cas celui qui suscite votre intérêt. Et puis, on va débattre. Il y a normalement des micros qui circulent. S'il y en a besoin, il y en aura. Sinon, chacun prendra la parole. Et puis, j'ai amené un petit peu littérature, simplement pour littérature très actualisée. Pour bien regarder ce qu'on va suivre, n'hésitez pas à aller voir ces magazines.
Donc c'est vrai que pour demander la parole, il faut de lever la main, de telle sorte que tout le monde puisse participer et puisse s'écouter les uns les autres. C'est le but, hein, c'est de mettre en place une discussion collective. Donc, Nicolas, proposes-tu les sujets ?
J'ai un petit point pratico-pratique.
Okay.
Si vous souhaitez, on peut faire passer, il y a des verres, il y a du velo, du cola local et du jus de pomme local et des petits gâteaux. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas. Dans Café Philo, il y a café. Donc il y a Philo, on va le dire, mais il y a café, donc ça peut
s'il n'y a pas de whisky, alors.
Et boire un petit verre en échange.
Ça dénature l'eau, le whisky.
Oui. Non,
vous êtes pas
surtout l'eau ferrugineuse, surtout.
Alors lors d'un vrai Café Philo, en fait, on ne boit pas, on ne mange pas. Et c'est à la fin du Café Philo qu'il y a un temps de convivialité et d'échange entre vous ou avec les animateurs. Le ou les animateurs. Alors, le premier sujet, c'est peut-on encore être solidaire aujourd'hui ? Peut-on encore être solidaire aujourd'hui ? Second sujet.
Pourquoi s'engager ? Pourquoi s'engager ? On peut jouer sur le double sens de pourquoi. Pourquoi le but et pourquoi ? Pourquoi ? Pour quelle cause ? Pour quel mouvement ? Pourquoi s'engager ?
Troisième sujet. Agir pour soi, agir pour les autres. Faut-il choisir ? Donc, premier sujet, peut-on encore être solidaire aujourd'hui ? Second sujet, pourquoi s'engager ? Troisième sujet, agir pour soi, agir pour les autres, faut-il choisir ? Et maintenant, on va passer au vote. Bonsoir.
Est-ce que, comme pour les cafés philo, on peut
revenir
sur plusieurs sujets après.
On va vous laisser vous installer, puis on va répéter les sujets pour que vous puissiez participer au vote.
Il y a une place là-bas.
On peut rajouter des
chèques.
Allez-y, madame, restez debout. Vous avez la dernière place.
Il est un peu fort.
En commission. D'accord. C'est pas où je suis tombé.
Alors, donc, on vous redonne les sujets pour celles et ceux qui n'auraient pas encore des connaissances. Peut-on encore être solidaire aujourd'hui ? Pourquoi s'engager ? Agir pour soi, agir pour les autres, faut-il choisir ?
J'attends le whisky.
Et donc, comme pour le café philo qu'on anime à Jonzay une fois par mois, vous pouvez choisir, vous pouvez voter pour autant de sujets que vous souhaitez. Si les trois sujets vous intéressent, bah vous votez trois fois. C'est un bon système de vote.
C'est du cola.
Si jamais il y a un ex
aequo, là, on reprendra le vote, mais vous pourrez le.
Ah.
Si, si, il y en a à Marie-France.
C'est bon pour tout le monde ?
Tiens, vous pouvez me faire passer les verres, il y en a deux qui n'en ont pas là-bas.
Vous en avez pas ?
Alors,
j'avais mis du chocolat.
Peut-on encore être solidaire aujourd'hui ?
Ah,
voilà. Qui serait intéressé pour proposer cette question au débat ? Peut-on encore être solidaire aujourd'hui ?
1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. 7 votes. Pourquoi s'engager ? Pourquoi s'engager ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, agir pour soi, agir pour les autres, faut-il choisir ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, le sujet traité ce soir sera agir pour soi, agir pour les autres, faut-il choisir ? Alors, il est d'habitude que la personne qui propose en fait le sujet explicite les raisons qui l'ont amené à proposer soit une telle thématique, soit un tel sujet. Alors, il nous a semblé intéressant de proposer cette dualité, agir pour soi, agir pour les autres, faut-il choisir, dans l'optique d'une journée relative donc aux journées du bénévolat. Il est vrai que très souvent, on dit que pour donner, il faut savoir donner aux autres, donc s'oublier soi-même. Et en même temps, la question se pose de savoir si réellement l'altruisme en fait fait sens. Enfin, il me semble qu'il y a là une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on agit véritablement dans le but d'aider autrui et dans un oubli de soi ? Ou est-ce que la meilleure manière, en fait, d'aider l'autre, c'est d'abord de l'aider en s'aidant soi-même dans l'acte que l'on accomplit ? C'est-à-dire, faut-il s'oublier soi pour aider l'autre ? Ou au contraire, est-ce que c'est prendre soin de soi d'abord que d'aller vers l'autre ? Voilà. Il me semble qu'il y a là une question qui peut être intéressante, parce que il y aurait peut-être un moyen d'aller raisonner sur un préjugé en fait de la société qui est que ça serait pas nécessairement bien d'agir par égoïsme. Voilà, égoïsme, égocentrisme même, c'est-à-dire être centré sur soi dans ce que l'on peut faire et voir dans ce que l'on peut donner pour autrui. Donc voilà, il me semble, faut-il s'oublier soi pour aider autrui ?
Est-ce qu'on doit opposer l'égoïsme, qui est un terme qui reste à analyser, hein, ça va être l'objet du débat, est-ce qu'on doit donc opposer l'égoïsme à l'altruisme, nécessairement ? Ou est-ce que cette contradiction, qui est apparente, peut être levée ? Est-ce qu'elle n'est qu'apparente, forcément ? Est-ce qu'elle n'est qu'illusoire ? Est-ce que l'altruisme n'est pas une forme d'égoïsme ?
Aussi.
Peut-on être intelligemment égoïste ?
Peut-on être intelligemment égoïste ? Vous avez la parole.
Donc, je vous rappelle, il suffit juste de lever la main pour la prendre.
Moi, je...
Oui.
Madame.
Personnellement, j'ai eu un exemple de quelqu'un qui s'oublie pour aider les autres et qui finit par péter les plombs. Et du coup, d'expérience, j'ai compris aussi que faut déjà se sentir bien chez soi pour pouvoir aider l'autre. Oui. Donc, c'est un équilibre.
Oui. Quand on écoute les gens qui travaillent, par exemple, dans les soins palliatifs, ils ont tous eu une formation qui... où on leur apprend justement à garder du recul et à ne pas se sacrifier.
Voilà. À pas être trop investi émotionnellement.
Oui.
Alors, c'est ça.
Quand même, pour préciser un peu la question, parce que là, on parle des soins palliatifs, est-ce que quand on parle de don de soi, ça doit vraiment être sans rémunération ? Parce que les gens, ils travaillent quand même en soins palliatifs, ils sont rémunérés. Donc ils ont quand même, c'est pas gratuit quoi.
De manière générale.
Donc est-ce qu'on parle vraiment c'est de manière générale.
Non, non, mais
si la question c'est le faire vraiment de façon totalement désintéressée, je crois que les cas sont extrêmement rares. Il y a toujours un intérêt personnel derrière. Même la gentillesse, hein. Mais c'est quand même avant tout pour se faire plaisir d'être gentil ou reconnu comme gentil ou etc., etc. Ou apporter quelque chose à la société en disant, moi j'ai des connaissances, je veux les transmettre. Ou, il y a toujours un motif. Un jour, je discutais avec quelqu'un, et je lui dis, et il m'avait pris le contre-exemple, c'était il y a longtemps. Hein, et il m'avait dit, mais non, tu te trompes, regarde Mère Teresa et l'abbé Pierre. Bon, maintenant, aujourd'hui, on sait que l'abbé Pierre, c'était pas pareil. Il reste Mère Teresa.
Non, c'est vrai.
Je rejoins un peu. Monsieur, je pense qu'on agit par intérêt, vraiment, enfin, personnel. D'abord, que ça soit, mais que ça soit pour tout, hein, que ça soit pour avoir un confort chez soi, pour avoir un confort de sa famille, pour avoir, pour entourer les siens, pour, en fait, il y a toujours un intérêt. Après, avec cette stabilité, on peut effectivement être beaucoup plus aidant. Je rejoins aussi la madame. On peut être beaucoup plus aidant lorsqu'il y a cette stabilité, où il y a eu toute cette construction en fait, individuelle déjà.
Construction.
Sur ce sujet, moi, ce qui me pose question, c'est la notion d'égoïsme dans ce contexte-là, puisque avec le temps, j'ai réalisé que parfois, dans certaines situations, quand on faisait preuve d'estime de soi, on était qualifié comme étant égoïste. Du coup, bien définir ces deux parallèles-là, afin de ne pas tomber dans une situation sacrificielle où quelqu'un dénaturer la démarche première qui est la solidarité, le don de soi.
L'estime de soi, l'amour propre, la confiance en soi, c'est tout un... Ce sont plusieurs socles qui font que ça construit, c'est un peu comme ça que je visualise les choses, la notion d'estime de soi. Et pour moi, l'estime de soi, je la vois un petit peu au-dessus par rapport à l'amour de soi, la conscience de soi, qui je suis réellement, l'amour de soi et... enfin, donc après, c'est comment je la définis et comment je la vibre aussi, je la ressens intérieurement. Donc c'est...
Pour moi, faire preuve d'estime de soi, c'est quand on se met dans une position où on est là pour l'autre au détriment de soi-même. C'est là où on fait preuve d'estime de soi et non d'égoïsme. Et c'est là où vraiment le geste de don du soi, il est complet. Puisque est-ce que réellement on fait un geste bon ou bien, selon la qualification, si ce geste-là nous nuit à nous-mêmes ?
Il me semble que là, on est en train de travailler le cœur même de la problématique autour de la notion d'égoïsme. Oui. Il y a deux sens, me semble-t-il, à distinguer dans la notion d'égoïsme. Il y a le sens, j'allais dire, courant, où l'égoïsme est renvoyé à la tendance que chacun et chacune d'entre nous peut avoir à prioriser ses intérêts aux dépens de ceux des autres. À faire valoir sa personne ou ses proches aux dépens d'autres personnes moins proches ou inconnues ou considérées comme étrangères voire même considérées comme hostiles. Et en ce sens, dans ce sens courant, l'égoïsme est considéré comme un penchant dont il faudrait se méfier, dont il faudrait corriger, et on apprend, on est censé apprendre à l'enfant, il est censé se réapprendre à soi-même, à ne pas être trop égoïste, à penser aux autres, donc à penser à soi. Ça, c'est, j'allais dire, le sens courant, et effectivement, là, on est dans une distinction assez massive entre égoïsme et altruisme. Et puis, il y a peut-être le sens plus central de l'égoïsme, qui est finalement de se rapporter à sa subjectivité, à son ego. Et j'allais dire, mais là sans même faire des références à Descartes ou à Rousseau ou à je ne sais qui, je ne peux pas, par nature et par principe et par définition, je ne peux pas être quelqu'un d'autre que moi-même. Je suis moi. Je ne sais pas qui suis, je ne sais pas ce que je suis, qui je suis, c'est un autre débat. Mais je suis moi, je ne suis pas vous. Et je ne pourrai donc jamais, par définition, me mettre à votre place. On va peut-être aborder les questions de l'empathie, et des contresens, et des limites, et en même temps des vertus d'empathie. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que je suis moi,
j'ai ce rapport au monde qui passe par ma petite fenêtre à moi, ma petite porte à moi, par ma grille de lecture, par ma subjectivité. Moi, je suis un ego qui est confronté et qui est coordonné, qui va se coordonner avec d'autres égos. Et en ce sens, nous sommes, me semble-t-il, fondamentalement, mais au sens neutre, pas au sens péjoratif, au sens du mauvais sentiment, nous sommes fondamentalement égoïstes. Nous ne pouvons pas être autre que nous-mêmes, et nous ne pouvons pas, je reviens un peu sur ce que vous disiez, nous ne pouvons pas, par définition, sortir de la logique de notre perspective, de notre intérêt. Mais un intérêt n'est pas forcément un intérêt malveillant ou un intérêt cupide, de vouloir accumuler pour soi, pour ses proches, ou les gens des autres. Je ne peux pas, encore une fois, être... Voilà. Si je me lie à l'autre, c'est moi qui me lie à l'autre. Et donc c'est que j'ai un intérêt à le faire, un intérêt économique, un intérêt affectif, un intérêt psychologique, un intérêt moral, enfin bref. J'ai une raison de le faire. Et si vous n'aviez pas de raison d'être là, vous ne seriez pas là. Si je n'avais pas de raison d'être là ce soir à co-animer ce café philo, bah, je ne serais pas là. Ça ne veut pas dire que je suis là, je vous laisse la parole, ça ne veut pas dire que je suis là pour ramasser ou je ne sais quoi. Ça veut dire que, par définition, j'ai un intérêt et je trouve ça hyper bien que ça se fasse et je suis content d'être là. Et je vais rentrer chez moi ce soir, je vais dire « Ah, c'était trop bien, Et donc finalement, c'est même pas l'image de moi, vous voyez, enfin, c'est même pas cette image que j'aurais de moi-même en disant « Ah, quel homme respectable, etc. » ça. Peut-être, d'accord. Mais tout simplement, c'est que j'ai du plaisir à être là. Et, et c'est ce plaisir que j'ai à vivre ce que je vis qui fait que je suis là avec vous. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que l'égoïsme, c'est peut-être cette donnée fondamentale à partir de laquelle on construit notre rapport au monde. On ne peut pas ne pas être égoïste en ce sens-là.
Mais oui, madame. On ne peut pas non plus ne pas être un être social. C'est-à-dire que là, on est en train de partir sur l'idée qu'il y a le moi et les autres. Or, il n'y a pas de moi hors de la société. La preuve, c'est que les gens qui sont isolés deviennent complètement fous. Donc, je pense qu'on est construit... pas seulement en fonction de son narcissisme, mais aussi on est construit, on est dans un rapport à l'autre, originellement.
Bien sûr, nous sommes dépendants des autres. Voilà. Je ne suis que par la grâce de l'autre. Nous sommes des animaux grégaires.
Mais je pense que même le moi dépend de l'autre. Oui.
Je ne suis que ce que l'autre reconnaît de moi.
Notre moi n'est pas un être à part. Je me reconnais dans l'autre. Je suis moi dans le regard de l'autre.
Oui, ça amène aussi l'idée de la tolérance et des limites que chacun on peut avoir par rapport à ce qu'est l'autre. Voilà. Et c'est aussi, comme disait madame, une question d'éducation, de formation, d'expérience. Et puis aussi, parce qu'effectivement, on est lié dans la société, il y a des liens. Qui sont, effectivement, comme disait madame, dès le départ, mais aussi qui se font tout au long de la vie.
Alors, ce qui est intéressant, il me semble, c'est la notion de limite que vous venez de poser, et qu'on retrouvait dans votre première intervention. Agir pour les autres peut amener à. Il y a quand même une notion à se perdre soi-même. Et alors, qu'est-ce qui rendrait possible le fait de se perdre soi-même si effectivement on était un moi à ce point isolé des autres, insulaire ? C'est tellement bien parce qu'on est dans un rapport à autrui qu'il peut y avoir des fois cette forme de porosité qui fait que, effectivement, si on n'arrive pas à poser la limite, on peut effectivement être happé par autrui.
Oui, dans la question de l'engagement et de faire pour les autres. Peut-être que ça correspond aussi à certaines valeurs, certains principes ou certaines croyances qui font que peut-être qu'on se fait du bien en s'engageant dans ce sens-là et que ça correspond aussi à nos valeurs. Et peut-être que pour bien le faire aussi, il faut savoir se protéger, parce que si on n'est pas soi-même disponible, ou si on n'est pas soi-même peut-être assez bien avec soi-même, on ne peut pas remplir cette mission qui semble qu'on a donné.
d'autres aspects culturels notamment.
Excusez-moi.
Parce que quand on vient d'une culture différente, d'un continent différent, ce qui est peut-être, je ne vais pas dire normal, ce qui est quotidien, ce qui est courant chez soi, ne l'est peut-être pas chez l'autre. Moi, je parle par exemple de moi qui suis originaire d'Afrique. Et certaines choses qui peuvent être faites dans ma culture, et encore l'Afrique, il y a plusieurs, il y a ces 54 pays. Et donc, est-ce que ça n'interroge pas aussi cela, l'éducation? Et je parle beaucoup plus de la notion du culturel. Donc, effectivement, quand on vient d'ailleurs, il y a des choses qui peuvent nous sembler, qui peuvent nous interroger. Alors que cela est normal chez l'autre. On parlait par exemple de la notion de la tolérance. Donc, ça interroge plusieurs valeurs, le vivre ensemble. Donc, et je vais beaucoup plus parler de la tolérance parce qu'effectivement, le fait d'essayer d'aller vers l'autre, comprendre, ça peut amener à faire, oui, c'est-à-dire faire ça amène vraiment au fait de faire un pas de plus, un ou deux pas vers les autres. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Est-ce que le don de soi ou l'égoïsme n'est pas perçu, que l'on soit, si on doit parler de continent, qu'on soit originaire du continent, encore dans l'Afrique, ou subsaharienne, ou en Asie, ou en Europe de l'Est, etc. Est-ce que ça l'interroge? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects qui rentrent aussi en jeu
là? Oui, c'est sûr qu'il y a des cultures qui sont beaucoup plus individualistes, la culture européenne en fait partie, et des cultures qui sont beaucoup plus communautaires, où la communauté, le groupe est premier et l'individu est au service du groupe. Et des cultures où c'est assez à l'inverse, c'est l'individu qui lui est premier et le groupe qui pourrait même venir soutenir l'individu. Donc il y aurait deux façons assez radicalement différentes.
Et qui ne sont pas forcément opposées, c'est ce que je dis, de comprendre de clés de compréhension.
Mais est-ce que cela change par rapport.
C'était à la... Non, mais vas-y.
Est-ce que cela change par rapport à l'égoïsme? Parce que si on nous apprend qu'il faut faire s'y partager et tout, et qu'on ne le fait pas, se met soi-même en marge de la culture dans laquelle on est. Moi, je me souviens d'un exemple, j'étais petit, un copain qui donne 2 euros, enfin, à l'époque c'était des francs, mais qui sont de 2 euros à un mendiant. Je lui dis, t'es fou, 2 euros. Il me dit, ouais, mais Dieu me voit, et j'irai au paradis.
C'est une bonne action.
Voilà, c'est une bonne action.
Oui, mais...
Donc, il n'a pas fait vraiment parce qu'il avait envie de le faire.
Non.
Il y a un intérêt derrière. J'attends la personne qui me regarde et qui va faire quelque chose pour moi après, quand j'en aurai besoin. C'est un espèce d'investissement.
Est-ce qu'on peut aussi servir... je comprends.
Madame avait...
Moi, je reviens sur ce que disait Adam, parce que je crois que l'aspect culturel, il est aussi éducatif. L'éducation nationale ou même dès la crèche, on peut avoir des implications là-dessus et de voir qu'on peut effectivement apprendre à partager, à vivre ensemble, à mener des actes ensemble et qu'on puisse, si c'est bien mené, de la joie, du plaisir, alors qu'à l'inverse, si on est trop ces petits conforts personnels, on va pouvoir y mettre des conflits. Et puis, si on apprenait dès le plus jeune âge, je pense à débattre tout de suite sur ben là j'ai envie ou là j'ai pas envie. Là, ça me heurte, ou là, je suis en accord. À quel moment je suis dans le groupe et bien dans le groupe, et à quel moment j'ai besoin de repli. Et c'est normal aussi d'avoir besoin de repli et de s'autoriser à le faire. Je pense que derrière, on aurait peut-être beaucoup moins d'adultes un peu soit à trop bien faire, par obligation, ou soit à trop se replier parce que l'autre fait mal, ou soit à trop être en force sur l'autre parce que je sais mieux et que je m'impose. Et je pense qu'on a vraiment... Voilà, culturellement ou au niveau de l'éducation, quelque chose à jouer.
Alors en fait, ça serait travailler la communication, si je comprends bien, pour protéger le respect de soi.
Le respect de soi et de l'autre.
Et de l'autre.
Et puis apprendre qu'il n'y a rien d'avilissant à aider l'autre aussi. Mmh. Les tâches à la personne, comme on parlait tout à l'heure des soignants, une aide-soignante, c'est quand même quelque chose qui peut paraître pour d'autres totalement ingrat, dégoûtant, ça, là, moi jamais je pourrais, et puis le rapport encore à l'autre. Et puis finalement, c'est des personnes, au jour où on en a besoin, on se rend compte de l'immensité de l'offre que l'autre nous fait. Et c'est vraiment des regards qu'on n'a pas forcément appris à avoir, et qu'il est intéressant d'ouvrir au maximum le plus tôt possible.
Et c'est là, peut-être, pour revenir sur ce qui a été dit, le rapport à la rémunération, en fait, n'intervient pas nécessairement dans ce que l'on peut apporter à l'autre, dans le don de soi, que l'on soit bénévole ou qu'en réalité, on soit rémunéré.
Dans les deux cas, il y a des personnes rémunérées dans une offre du cœur qui est gigantesque, et d'autres qui sont des horreurs, et des personnes qui sont 100% bénévoles, qu'on pourrait dire avec un grand cœur, et qui le font avec un ego démesuré, parce qu'ils sont là pour s'affirmer soi, ou pour donner de la valeur à soi, et pas pour rendre service aux autres. Et je pense qu'on a,
pour l'altruisme.
Là, c'est pas moralisateur, parce que même moi, je pense que des fois, mon ego, il doit être en train de caquiter un peu trop fort, et puis non, pas assez. Mais,
les deux ne sont pas compatibles. Le fait qu'on agisse pour nourrir son ego et en même temps.
Un petit peu plus fort.
Je disais, est-ce que les deux ne sont pas possibles? Le fait qu'on y trouve une satisfaction personnelle en aidant les autres et le fait d'agir aussi pour aider l'autre. Les deux ne sont pas compatibles, il faut forcément.
Ça peut être compatible, okay. Mais tant que ça n'est pas l'autre, c'est la. Il y a plein de raisons. Moi, je suis d'accord avec vous, il y a toujours une raison pour soi, de toute façon, de faire quelque chose. Okay. Parce qu'on veut être gentil, parce qu'on veut une belle image, parce qu'on veut du bien social, parce qu'il y a mille façons d'être là.
Okay. Ce qui est intéressant, je me permets de penser à une référence philosophique qui me vient à l'esprit. Dans le discours sur l'égalité de Jean-Jacques Rousseau, il construit une sorte d'anthropologie un peu fictive, c'est-à-dire une description de la nature humaine. Et il dit que finalement, l'être humain, et pas que l'être humain d'ailleurs, bref, d'autres. Vivant, mais peu importe, que l'être humain il est constitué par une sorte d'équilibre naturel, c'est là le mythe de l'homme bon par nature, etc., d'équilibre spontané et naturel entre deux sentiments qu'il appelle l'amour de soi et la pitié. L'amour de soi qu'il distingue de l'amour propre. L'amour de soi, c'est ce que vous avez appelé l'estime de soi, la recherche d'un bien-être pour soi, mais à la recherche naturelle, c'est-à-dire d'un confort, j'évite la douleur, je recherche le plaisir, je cherche, vous avez évoqué, madame, ces moments où on a besoin de se retrouver soi-même, c'est ce qu'il appelle l'amour de soi. Et cet amour de soi est contrebalancé par ce qu'il appelle la pitié, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler, en un langage plus moderne, l'empathie, ou la sympathie, la bienveillance. La pitié, c'est-à-dire identification naturelle au malheur de l'autre, humain et non humain d'ailleurs, à tout vivant. Et finalement, l'amour de soi, c'est plutôt ce qui va m'amener à penser à moi-même, et la pitié va m'amener à penser à l'autre. Et finalement, il y a cet équilibre qui se joue. Et c'est là pour ça que vos propos sur l'éducation et sur l'ancrage culturel de cette disposition à l'égoïsme ou à l'altruisme m'a fait penser à Rousseau. Et Rousseau nous dit, mais le corps social, le type de société dans lequel on va évoluer, donc le type d'éducation qu'on va recevoir et qu'on va transmettre par ailleurs, va ensuite favoriser l'un ou l'autre de ces sentiments. Et l'amour de soi va progressivement se transformer en amour propre. Et l'amour propre, ça c'est l'égoïsme au sens, c'est-à-dire courant du terme, c'est-à-dire où je néglige l'autre vraiment pour moi-même en cherchant à accumuler tout ce qui peut servir mon intérêt. Et la pitié peut également se transformer en une sorte de logique sacrificielle, ce qu'on pourrait appeler une sorte de générosité aveugle, où finalement je me perds moi-même. Et c'est ce qu'il faut essayer de maintenir, dit Rousseau, c'est cet équilibre entre l'amour de soi et la pitié, sans céder à l'amour propre. Et on est dans des sociétés individualistes qui nous poussent quand même dans la société, je sais pas, de compétition, l'important c'est de participer, d'accord, mais c'est quand même pas mal de gagner aussi, enfin voilà, et on compte les médailles d'or que la France a reçues à telle ou telle compétition sportive, et ça s'arrête, on est très fiers de nos champions et de nos championnes, enfin bref, etc. Bref, donc on est quand même des sociétés qui favorisent l'amour propre aux dépens peut-être de la pitié, et on est aussi parfois dans des logiques, je pense par exemple à des logiques des personnes qui sont en situation d'aidant ou d'aidante, d'accord, où la pitié devient une sorte de générosité aveugle aux dépens de soi-même. Et finalement, on se perd dans les deux cas. On se perd dans l'amour propre, ou on se perdrait dans cette générosité aveugle. Alors même que, nous dit Rousseau, cet équilibre devrait être maintenu
entre la pitié d'un côté, donc le souci de l'autre, et l'identification à la souffrance d'autrui, humain et non humain, et l'amour de soi, le souci de soi, au sens de l'estime de soi. C'était juste le petit.
Il y a rien à voir, mais c'est la même chose.
Oui, il y a
une chaise ici. J'ai un bébé dans une poussette juste derrière. Ah, il dort. Vous voulez qu'on lui donne la chaise? Non, dehors, tranquille.
Est-ce que vous D'accord, pas très bien.
Je suis très bien debout, merci.
Je me demandais par rapport à ce que vous dites, quand on s'engage dans l'aide à la personne, dans l'accompagnement à la personne, peut-être qu'on le fait aussi par certaines valeurs qui dépassent les conditions personnelles et des valeurs un peu plus universelles. Et peut-être que quand on s'engage dans cette voie-là, ça peut permettre, à défaut de se perdre, peut-être des fois de se redéfinir aussi dans ce qu'on fait au quotidien avec les gens et s'apercevoir que ça dépasse peut-être les égos ou la condition des personnes et qu'il y a peut-être des valeurs peut-être un peu plus universelles et que ça permet de repenser les choses, de repenser soi par rapport à l'autre, l'autre par rapport à soi. On peut être surpris, peut-être que des fois on peut le faire par pitié, ou par amour de soi, ou par amour des autres, et à la fin, ça redéfinit un peu tout ce qu'on pensait de soi et du rapport à l'autre aussi.
Oui, je suis absolument d'accord, et je regardais sur ce que vous disiez, madame, c'est-à-dire que on s'aperçoit et on constate que j'étais parti de l'idée que nous sommes un moi et que je suis moi, mais ce moi, il est éminemment social, et que je ne suis moi que par la grâce d'autrui, que par les liens qui nous lient à tout vivant, j'allais dire, à tout vivant, humain et non humain. Et c'est peut-être ça ce qu'on découvre dans l'engagement et en rappelant la figure de l'aidant ou de l'aidante, on découvre finalement que je ne suis moi que par l'autre.
À quelle valeur universelle
vous pensez? Je pensais à certaines valeurs, bon, ça va être un peu bateau, mais les valeurs de solidarité, d'entraide, d'amour de manière générale. Après,
mais qui serait apprise ou...
Je pense qu'il y a un certain conditionnement, il faut de l'éducation, de la société, peut-être de la religion et d'autres choses qui font qu'on se construit sur avec certaines valeurs, peut-être certaines normes, certains repères qui font qu'on a peut-être plus tendance à s'engager. Je pense aussi peut-être qu'il y a peut-être la fibre personnelle qui fait qu'il est, qu'on a peut-être cette appétence-là.
Le terme de solidarité m'intéresse parce que solidarité, là on a vraiment été au cœur de l'humain, aussi dans ce qui peut toucher l'affect, l'analyse de notre sensibilité. La solidarité, c'est aussi un terme politique. Quand on parle d'engagement, ce qu'on entend aussi derrière, c'est l'engagement, le don de soi, mais il y a aussi l'engagement politique, c'est-à-dire s'engager pour une certaine conception de la société dans laquelle on veut vivre. Voilà. Dans quel type de société voulons-nous vivre? Avec quel type de valeurs, mais pour le coup, j'ai envie de dire politiquement inscrites, voulons-nous nous engager, voilà, faire advenir, ce qui changerait un peu notre posture, parce que d'être sensible et raisonnable, on s'élèverait au statut de citoyen aussi, ce qui permettrait de poser les limites, du coup. C'est-à-dire la solidarité, ça définirait une certaine forme de relation entre les individus qui constituent une société, qui serait peut-être plus basée sur la compétition, comme on l'a dit, avec le travail de l'amour propre, cette mise en avant de soi, cette réussite de soi au détriment des autres, la performance, et qui laisserait plutôt place à une logique de la coopération.
Il y a la société dans laquelle on veut vivre et la société dans laquelle on ne peut pas vivre aussi.
Voilà.
Et la société dans laquelle on vit.
Voilà, comme ça.
Oui, j'irais pour rebondir sur ce que vous dites là par rapport à société. C'est vrai aussi que ça dépend de la situation. Une personne qui est dans un pays, par exemple, qui est en guerre, il ne va peut-être pas s'engager de la même façon qu'une personne qui se retrouve dans un pays comme peut-être le nôtre, où on est en paix, etc. Où il y a quand même des conditions beaucoup
plus favorables.
Oui.
Oui, madame.
je voulais rebondir sur le fait, après son monsieur, mais sur la solidarité, il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui sont engagés, on va dire, dans les sphères politiques de vivacité, tous ceux qui sont conseillers municipaux, les comités des fêtes, qui sont juste des bénévoles basiques, qui n'ont pas de carrière, mais qui veulent juste faire le bien pour là où ils habitent. Et c'est la plus grande partie que ce que l'on voit à la télé, c'est vraiment toutes les communes. Et après, je suis membre d'associations qui sont implantées dans différents pays. Et pour avoir discuté avec des personnes qui étaient en Syrie à l'époque, où toujours un peu problématique chez eux et autres, mais nous sommes notre association, c'est la Jeune Chambre. En fait, on voit que même les Africains, les Asiatiques, les Américains, on a tous le même ADN. Et en fait, peu importe le conflit qu'on ait, c'est on veut faire pour essayer de faire changer les choses ou les améliorer, après de façon différente. Tout le monde n'a pas envie de participer à tous les projets, parce qu'on va s'engager et donner du temps sur des projets qui nous font sens. Vas-y. Mais l'avoir envie de faire quelque chose, il n'est pas lié à la situation on va dire, du pays, de la guerre ou pas guerre. Je pense que c'est intrinsèque à vouloir faire quelque chose tout pour de sa vie, quoi. Au-delà de boulot, dodo et famille, quoi. Mm-hmm.
Mm. Faire le bien.
Prise de conscience et conséquence de cette prise de conscience que de facto nous sommes embarqués dans une même et unique humanité.
De toute façon, pour vivre en collectivité, il faut bien essayer d'orchestrer, d'organiser. Je veux dire, mais même dans. J'imagine autour de la table beaucoup de gens qui ont été bénévoles et sensibles à ce sujet de bénévoles, mais il y a aussi déjà le simple. Même sans que les gens soient forcément engagés dans l'organisation, le simple fait d'aller à ce qui a été organisé, c'est déjà aussi une reconnaissance de ceux qui font des choses et de le faire vivre. Je sais que j'ai vécu dans une ville pendant un temps, il n'y a pas forcément beaucoup d'associations, mais dès qu'il y avait quelque chose organisé, beaucoup de gens se déplaçaient. C'était déjà aussi sympa, parce que en tant que bénévole, la seule reconnaissance qu'on a, c'est le merci des gens, en fait. Donc de faire quelque chose et qu'on n'ait pas juste 10 ou 20 personnes qui viennent parce que bon, bah, c'est sympa, je vais bien te voir, mais il y a vraiment des gens qui t'attouchent. Ça montre que les gens s'intéressent ou s'ils ne donnent pas forcément du temps à l'organisation.
Moi, j'ai du mal avec le principe de se dire que pourquoi ça serait incompatible d'aider ou de servir la société ou la communauté. Pourquoi ça serait incompatible avec le fait de gagner de l'argent. On sait qu'aujourd'hui, tout se finance, que même si on veut fonder des projets, des associations, des actions éducatives ou autre, il faut des fonds aussi. Peut-être que ça ne peut même pas le faire des personnels médicaux, médico-sociaux aussi qui sont rémunérés aussi comme ça. J'aurais pu faire un autre travail. Il y a toujours cette question, moi je trouve, de valeur et d'engagement. Et ça ne me paraît pas forcément incompatible le fait d'être engagé pour ce qu'on fait, de gagner de l'argent avec, de produire de l'argent et créer aussi des choses. Il y a aussi des grands mécènes qui financent des actions.
Tout à fait, oui.
Madame. Alors, pour rebondir, non seulement c'est pas incompatible, mais il y a même un monsieur qui a inventé une monnaie qui serait créée parce qu'il y a des gens qui rendent service au bien commun. C'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner avec un argent d'aide, comme on a aujourd'hui, on fonctionnerait avec avec un argent qui est créé parce que les enseignants, parce que les soignants passent du temps à faire leur boulot. Il n'y aurait plus de dette. Aujourd'hui, l'argent est créé par des banques privées à l'occasion d'un prêt. C'est-à-dire contre une dette. Et mathématiquement, c'est débile.
C'est débile.
Débile. Et c'est débile. Bref, parenthèse. Et donc, cette idée, c'est de créer l'argent parce qu'il y a des gens qui rendent service au bien commun. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner comme c'est très compliqué en ce moment, eh ben, on dirait, tiens, l'hôpital a besoin de 100 000, comme on crée 100 000. Je vous signale que là, aujourd'hui, c'est des banques qui créent clic-clic. Donc, techniquement, c'est la même. Voilà. Ben, on créerait 100 000 pour faire fonctionner l'hôpital, pour faire fonctionner l'école, pour faire fonctionner tout ce qui est protection de l'environnement, et, enfin bref, tous les besoins que l'on a dans, que la société a pour vivre, pour que les membres de cette société puissent vivre bien, confortablement, hein, protéger notre environnement, etc. Et là, on pourrait plus dire, il n'y a pas assez d'argent, mais par contre, on regarderait bien comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne réellement au service de nos besoins? Est-ce que ça respecte une charte qui serait établie par les citoyens? Enfin, bon. C'est un projet assez complexe, et puis ça m'y fait penser, parce que oui, on peut rémunérer les gens qui travaillent au service du bien commun. Ce serait même super, parce qu'il n'y aurait même plus de dette.
Merci. Madame, merci.
Je voulais rebondir sur monsieur, mais je vais rebondir ce que vous avez dit. Je connaissais le principe d'avoir une rémunération et une monnaie autre que l'argent qu'on connaît pour la transmission de connaissances. Je ne savais pas que ce système s'était étendu sur d'autres services.
Alors ça n'existe pas encore, ça reste une idée en l'air.
Ça n'existe pas, l'économie de la connaissance par l'Église
Peut-être, je ne sais pas, hein, mais cette monnaie de bien commun, pour l'instant, ça reste une idée.
Alors, pour la connaissance, elle existe déjà. Ceux qui ont, par exemple, acquis un savoir,
ouais,
peuvent l'enseigner à une autre personne, donc ils récupèrent cette fausse monnaie. Et en fin de compte, ça leur permet d'approcher une autre personne pour acquérir un savoir, et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent.
Ça, c'est le réseau des échanges de savoir.
Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, est-ce que c'est une continuité de celui-là ou...
C'est pas une continuité, mais c'est il y a quelque chose d'équivalent. Et il existe aussi le jeu, le jardin d'échange universel, où une heure de mon temps vaut une heure de ton temps, quel que soit ce que vous avez fait. Et donc, voilà, et on note sur un carnet, on échange des selles, aussi des réseaux d'échange du service.
Moi, je rebondis. Hein,
mais lui, c'était juste avant moi.
Une sorte de petit bâton de parole. D'accord.
Mais madame avait de marge.
Je voudrais abonder dans le sens de monsieur, et nuancer, peut-être pas nuancer, abonder dans le sens. La question de l'engagement, je parlais tout à l'heure de culture. Et est-ce que ça m'interroge pas aussi au niveau de la société? Pour aller dans son sens, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir tendance à opposer, bénévolat ou alors engagement qui ne se mêle pour, voilà, à, c'est comme si on opposait les riches, les pauvres, les patrons contre les salariés. Est-ce qu'une forme d'engagement, ce ne serait pas aussi, parce qu'il y a des personnes qu'on ne voit pas dans les associations, mais qui financent très fortement, on parlait de mécènes aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas aussi dans une société où, si je parle, je reprends l'exemple de la société, nous qui sommes ici en France, ou la société française, par rapport aux anglo-saxons, dire qu'on gagne de l'argent ou alors on crée une entreprise, c'est plutôt bien vu de dire, ah ben oui, je vais créer cette société parce que je veux faire ceci, ah c'est pas pour de l'argent, ou même l'évolution en entreprise, dire qu'on veut une promotion en fin d'année, et, ou alors on veut gravir les échelons, je ne parle même pas de genre, hein, parce qu'une femme encore, c'est encore un autre débat, c'est tout de suite peut-être les dents qui règnent le parquet, alors qu'un homme ce serait plutôt, donc je ne vais pas sur ce débat, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté sociétal? Parce que moi je vois quand je côtoie les anglo-saxons, parler d'argent, c'est même pas un sujet, donc bien au contraire, ils vont dire, bah oui, tu travailles dans quel domaine, alors tu gagnes combien par mois? Alors qu'ici, ce serait plutôt, oui, c'est vénal. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce point-là à creuser aussi en disant qu'on peut gagner de l'argent? C'est aussi une forme d'engagement parce qu'on peut le dépenser autrement. Ce n'est pas forcément celui qui s'engage sur ce qui est visible dans une association ou bénévolement qui en fait plus que celui qui... Voilà, parce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser de ce côté-là.
De fait, sans le duc de Sforza et sans François Ier, il n'y a pas de Léonard de Vinci. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas, les chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci offerts à l'humanité aujourd'hui. Donc on pourrait effectivement défendre cette idée qu'ils avaient un intérêt politique, économique et de prestige et géopolitique, même et diplomatique, à financer un artiste génial comme Léonard. Donc, ils ont agi pour eux-mêmes, c'est le duc de Sforza et ce François Ier. Et pour autant, l'artiste financé par ce mécène, c'est précisément celui qui propose à l'humanité ce qui suscite aujourd'hui l'admiration. Oui. On dit ce qui fonde une forme de bien commun. Monsieur.
Oui. Donc c'était pour rebondir. Bon, je ne vais pas rebondir par rapport à ce que vous avez dit là. Parce qu'apparemment, c'est comme les nobles. Alors les nobles, effectivement, ont beaucoup aidé les artistes, ont beaucoup aidé la science. Et c'est pas pour ça que j'ai envie de revenir vers une forme royaliste. Quoi. C'est juste pour rebondir par rapport à ce que vous dites. Mais en tous les cas, par rapport à madame, j'entends, je ne sais pas de quoi vous parliez, l'histoire des 100 000. Je ne sais pas ce que c'était ces 100 000. Si c'était du troc ou des grains de sel, je ne sais pas. Mais en tous les cas, le fait de donner du temps à une activité pour donner, pour que les gens puissent bénéficier de ce service-là avec beaucoup moins cher, je pense à la Gabarre, par exemple, qui a été ce supermarché, en fait, qui a été chaque adhérent donnait une partie de son temps, de 2 heures par mois, pour que ce supermarché puisse faire des prix vraiment intéressants. Et il n'y avait seulement que 2 emplois, vraiment. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc je ne sais pas, je me fais plus l'avocat du diable. Je suis d'accord avec vous, mais ça ne fonctionne pas.
Non, mais la monnaie dont je parle,
ça
pour l'instant, pas.
Ça permet de dire si ça fonctionnait ailleurs.
À Paris, ça continue.
Ou à d'autres endroits.
À Paris, ça continue, parce que ça a commencé à Paris. Mais à Orléans, ça n'a pas fonctionné, en fait.
Il y a eu un quoi qu'à un moment. Et la Gabarre et tous ces deux, on reste dans le cadre de la monnaie euro, de la monnaie dette. Et là, il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de faire un système qui crée de la solidarité, de l'entraide, etc. Mais dans ce cadre de l'euro, c'est-à-dire d'une monnaie dette, d'une monnaie bancaire. Voilà. La monnaie dont je parle, pour l'instant, n'existe pas. Et il faudrait qu'elle existe en parallèle d'un État.
Oui, mais en fait, je ne comprends pas.
C'est pour ça. Madame. Il y a terminé tout à l'heure et voilà.
Non, mais après, c'est vrai, pour moi, il ne faut pas du tout opposer bénévolat et argent. Je veux dire, l'argent, c'est le monde dans lequel on vit. Donc, à part retourner 2 millions d'années en arrière, genre 2000 ans en arrière et changer tout le système jusqu'aux Romains, ça va être compliqué. Mais
même avant.
Oui.
Ouais, mais la définition du bénévolat.
Oui, moi justement, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Moi, je suis principalement dans le sport. Et par exemple, il y a les épreuves Ironman, vous avez certainement entendu parler. Et ça m'interroge beaucoup parce que c'est une société lucrative, on peut dire une multinationale, donc qui tire des bénéfices avec des prix d'inscription qui sont exorbitants. Pour un Ironman, on parle de 800 euros d'inscription. Et derrière, ils reposent sur les bénévoles. Et ça, c'est un système, justement, où on dit qu'il ne faut pas opposer les deux. Et là, quand même, je m'interroge beaucoup, parce que c'est un système qui permet... Alors, je ne sais plus maintenant si détenu par des Chinois ou si c'est encore des Américains. Enfin, il y a eu une valse des actionnaires de rachat, etc. Mais derrière, sans les bénévoles, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, là, quelque part... Quelque part, voilà, je m'interroge un peu, pour moi... Quand je suis dans le bénévolat, moi je suis dans l'association, c'est du bénévolat, je ne veux en tirer aucun avantage, en tout cas financier. Et voilà, à un moment, je trouve que c'est quand même compliqué pour moi d'associer les deux.
Oui, on a la même logique, le détournement, par exemple, pour l'organisation des grands festivals de musique.
Oui, sûrement. Oui.
On a des festivaliers qui reposent sur une force... de travail bénévole et puis des grands argentiers qui pratiquent des prix pour payer les cachets des artistes et puis pour refaire des bénéfices.
C'est pas sur les bénéfices d'entrée, c'est aussi beaucoup de sécurité, beaucoup de contraintes aussi qu'on rajoute derrière ce qui n'existait pas avant. Avant, on pouvait organiser des courses, on était 3 mouvants et en Corée. Maintenant, il faut les services de sécurité, le vigile, il y a tout plein de choses et à un moment donné, on ne peut pas demander à tout le monde tout le temps de devenir bénévole.
Et puis pour reproduire l'événement l'année d'après, il faut générer de l'argent.
Après, sur des choses comme ça, c'est la question sur le bénéfice qu'ils font. Est-ce qu'ils le redonnent dans le même ADN du sport ou est-ce qu'ils le gardent pour eux et est-ce qu'ils le redistribuent? que des fois, il y a des gens qui font payer, mais en fait, l'argent est redonné virtuellement sur d'autres actions dans la même thématique.
Ouais.
C'est pas forcément après, des actionnaires qui vont postuler derrière. Ouais.
Madame. Nous connaissons les ricains. Ah.
Madame, alors, moi, c'est, en vous écoutant, j'ai une question qui me vient, surtout quand monsieur dit qu'en fait, dans le concept de bénévolat, ça veut dire qu'il n'y a pas de transaction financière. Sauf que le temps, c'est de l'argent. Et quand on est face à quelque chose qui est gratuit, ça veut dire que c'est nous le produit. Donc au final, la personne bénévole qui offre de son temps n'a pas de rémunération. Sauf qu'il y a bien un mouvement financier derrière. Puisque là où elle n'est pas payée, il y a des bénéfices qui sont créés. Il y a des économies plutôt qui sont créées pour éviter des dépenses.
Mais pas dans les associations.
Les économies. Mais
si.
Si.
Si. Par exemple, c'est les frères des pauvres qui vont organiser des visites à domicile pour le bien-être des personnes isolées chez eux.
Oui.
Bah, si c'était quelque chose qui n'était pas fait, qui fait que ce soit pris en charge par l'État avec une heure de psy ou je ne sais pas quoi, bah, ça coûterait 100 ou 130 euros.
C'est ça, c'est
ça. Indirectement, c'est une non-dépense, mais c'est quand même un gage en plus, quelque part ou quelqu'un.
Ou même encore pas.
Oui.
Ou alors, pour compléter, effectivement, il y a cette notion, c'est ça qu'on dit même souvent, en disant que ce n'est pas gratuit, c'est offert, parce que c'est aussi la nuance aussi très importante. Parce qu'effectivement, on se dit, pendant ce temps-là, bon, là, il fait, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent le soir, mais le temps qu'on met, par exemple, dans une association, si on donne 2 heures par semaine ou 2 heures par mois, pour quelqu'un qui travaille, c'est du temps où il n'est pas en productivité, ou c'est peut-être du temps en moins. Il y a des gens qui prennent, par exemple, 80%, je travaille à 80%, parce qu'une une journée par semaine, je suis dans une association, donc c'est la rémunération en moins, et donc forcément... Donc effectivement, en soi, si on doit revenir au sujet, ça pose aussi la question de est-ce que la gratuité, est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'il y a une vraie gratuité?
Ben non.
Parce qu'on parle du bénévolat, mais s'il y a une forme de rémunération, une forme de bénéfice qu'on tire, il y a forcément un truc à un moment qui n'est peut-être pas monnayé, mais et même si on doit parler d'argent, il y a bien de l'argent qui se fait de manière non visible. Voilà ce que je veux dire.
Alors vous écoutez, je me demande si on ne pourrait pas distinguer, c'est une hypothèse, la solidarité et la générosité. Il me semble que la solidarité, c'est le fait de donner à l'autre parce que j'ai un intérêt à lui donner. Quand on parle de caisse de solidarité, je cotise, mais j'ai un intérêt à cotiser. Les impôts, c'est une contribution sociale, d'accord ? Et donc, c'est par solidarité que je paie. C'est pas qu'on ne devrait pas parler d'impôts, on devrait parler de contributions. L'impôt, c'est ce qu'on vient chercher dans ma poche. La contribution, c'est ce que je donne en tant que geste de solidarité à la communauté parce que j'escompte un effet retour en termes de biens publics, de services publics, des crèches, et les enseignants, et les soignants, etc. Et de la même façon, lorsque je m'engage dans un syndicat, on est dans une logique de solidarité. Je défends les intérêts de la corporation qui est la mienne, la corporation professionnelle, parce que j'en suis membre, et que finalement, en défendant cette corporation, je me défends moi. Donc finalement, dans les luttes de solidarité, il y a un aller et un retour. C'est-à-dire je donne à l'autre parce que j'escompte un retour. Et vous voyez bien que dans la logique, par exemple, de déduction fiscale de nos dons dans nos déclarations d'impôts, on est dans une logique de solidarité, quand même, en disant, bah, si vous donnez tant, bah, vous pouvez déduire 30%, 50%, 60%. De votre montant initial. Alors que dans la logique de générosité, mais question de savoir est-ce que la générosité ça existe, ça serait une sorte d'aller sans retour. C'est-à-dire je donne à l'autre de mon temps, de mon énergie, je donne à l'autre sans rien attendre en retour, sans escompter un avantage pour moi-même. Quand on est dans la logique de solidarité, je donne parce que j'ai un intérêt à donner. En tant que membre de telle corporation, de la communauté nationale, si on veut reprendre l'aspect politique que tu évoquais tout à l'heure, dans les sécurités. Alors que dans la générosité, c'est une sorte de... Et là, on revient un petit peu à ce que je disais avec Rousseau sur la dimension morale ou affective du geste et de l'action. Dans la générosité, il y a ce don pur, désintéressé, qui me lie à l'autre sans que j'en attende quelque chose en retour. C'est-à-dire, lorsque des parents... donne à un enfant, Est-ce qu'on est dans la solidarité ou est-ce qu'on est dans la générosité? Est-ce que j'attends un retour ou est-ce que je suis dans un don pur et gratuit et désintéressé? Vous voyez bien, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que de cotiser dans un syndicat, de se mettre en grève pour sauver tel ou tel système de retraite, par exemple. D'accord? Parce que j'ai un intérêt, hein, j'ai pas envie de partir à la retraite à 72 ans. Que de donner à celles et ceux qui nous sont chers. Est-ce que lorsque je donne la vie, je donne la vie par solidarité ou par générosité?
C'est une autre question.
Lorsque je donne la mort dans le cadre de l'euthanasie, c'est un geste généreux ou pas? Est-ce que je suis pas en train de me perdre moi-même lorsque je le fais?
Oui.
Quel intérêt j'ai à donner la mort à quelqu'un qui m'est proche? Je pense que voilà, cette logique-là, la solidarité, la générosité, elle, me semble-t-il, ne relève pas la même logique.
Oui, monsieur.
Oui, moi j'ai souvent entendu des gens généreux dire « Ah, ça m'a fait du bien
de donner. » Alors, c'est pas une...
Quelque part, là, il y a un retour sur investissement. Toujours.
Ça va vraiment juste...
Mais je ne crois pas les vacuums.
Il n'y a pas mal à réagir sur votre définition. Le sens de solidarité contient deux axes. Celui qui se base sur l'âme, sur quelque chose qui vient d'un sens moral, et celui qui se base sur la dépendance et le besoin et l'échange, en fait. Donc, du coup, ça se rejoint. Il y a de la générosité dans la solidarité aussi.
Moi, il me semble quand même on parle de bénévolat, si on parle de don de soi, si on utilise la notion de bien, il y a quand même quelque chose qui suppose une logique du désintéressement. Parce que ça veut dire quoi, faire les choses par intérêt? Alors c'est vrai qu'on peut distinguer l'amour propre, c'est vrai qu'on peut distinguer l'amour de soi, mais la morale, elle commande quoi en fait? Elle nous commande quoi? Si ce n'est justement d'apprendre à nous détacher de... ce qui peut nous faire du bien, parce que ce qui peut nous faire du bien est restreint. Et quand on parlait de la bonne action, Dieu nous le rendra, mais Dieu c'est aussi ce qui nous relie à l'universel, c'est-à-dire apprendre à un moment donné à s'oublier soi-même pour aller vers l'autre. Et est-ce que c'est pas ce qui nous met toujours très mal à l'aise? Parce qu'on sait d'une certaine manière que agir bien, c'est une véritable bonne action, ça serait l'action désintéressée. Et peut-être que quelques personnes, quelques images nous ont proposé ça. On a parlé de la Teresa, par exemple. Mm-hmm. Parce que ce désintéressement-là, ce n'est pas malgré tout ce vers quoi on doit tendre, même si on n'arrive pas.
Est-ce que l'intérêt, il est forcément pour soi quand on le fait? Je ne sais pas si on aide quelqu'un, par exemple. Même un sourire, un bonjour ou une attention quelconque. Peut-être que la personne, elle va se dire que peut-être que je pourrais faire mon prochain après, et ainsi de suite. Alors c'est peut-être idéaliste ou fermeux, je ne sais pas, mais comme j'ai tendance à croire à ça, je me dis que quand on donne, on ne fait pas forcément pour soi, et l'intérêt n'est pas forcément pour soi, mais plus global en certains servant voilà, certaines valeurs ou certains principes de société, on va dire. J'aime me dire ça en tout cas.
Mais est-ce qu'on est toujours dans une logique de donnant-donnant? En fait, parce qu'au final, moi, ce que j'entends, c'est qu'on serait dans une logique de donnant-donnant.
D'échange.
D'échange. Et est-ce que ça, c'est pas fondamentalement la société capitaliste, quoi?
Oui.
Voilà, si on veut s'en sortir, est-ce qu'il ne faut pas sortir du donnant-donnant?
Le donnant-donnant. Ouais.
Attention, la générosité pure, ça peut être aussi de la besoin de dominer. Là, il y a dans la charité, dans la pitié, dans la bonté même, il peut y avoir un besoin d'écraser l'autre. Non ?
Qu'il nous soit redevable.
Qu'il soit en dette. Donc il faut du respect, je pense.
Je suis pas d'accord avec la société capitaliste, c'est pas donnant-donnant, hein, c'est exploitation. C'est ça le maître mot de la société capitaliste. Ça exploite tout ce qui est vivant ou pas. et sans rien, et c'est pour son profit personnel, mmh. et sans s'occuper des conséquences, et mmh. voilà, point barre.
Monsieur. Oui, moi je m'interroge beaucoup parce que là on parle de la motivation bah, des gens qui s'engagent, des bénévoles, quelle est la part des groupes. Moi je m'interroge beaucoup sur les gens qui ne s'engagent pas. Et ça, c'est peut-être une majorité, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je vois, voilà, il y en a beaucoup qui ne s'engagent pas. Et finalement, quelque part, on peut dire, bah, ils profitent du système. C'est-à-dire qu'on a un système associatif qui permet d'avoir des cotisations beaucoup moins élevées que si c'était un système avec une société qui pourrait être, on pourrait avoir ce concept aussi, ça existe peut-être dans d'autres pays, ou dire ben, un club de sport où il y a de payer 200 euros par mois, je paierais 1000 euros parce que derrière il y a des salariés, etc. Donc voilà, moi je m'interroge aussi beaucoup sur ce qui fait que ben, finalement qu'on n'est que consommateur et qu'à un moment on ne se dit pas mais il faut aussi que je retourne à pareil. Parce que même si en s'engageant il y a certainement une part d'égoïsme, et pour moi, elle me paraît quand même beaucoup plus faible que pour les gens qui ne s'engagent, jamais.
Juste un petit point, enfin, je vous laisse la parole tout de suite. Hein. Je me demande, oui, je suis d'accord, enfin, je me fais la même remarque que vous, mais je me demande, on ne connaît pas la vie des gens. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez toute une partie de la population qui n'est formellement engagée dans aucune association, un dispositif bénévole et autres. Mais peut-être que dans leur voisinage, peut-être que dans leurs proches, peut-être que voilà, enfin, ils ont des gestes et des attitudes d'entraide, de solidarité, de générosité, et si on ne revient pas sur l'extinction, sans qu'on sache et sans que ça soit visible, sans que ça soit explicite. Autrement dit, j'aurais peut-être un point de vue peut-être moins, enfin, peut-être plus optimiste, peut-être plus fort bleu, plus candide, comme vous disiez, moins sévère peut-être sur. Je sais pas. Mais effectivement, parfois, j'ai ce constat en disant quand même, on est quand même avec 90% de consommateurs pour 10% de non-consommateurs. Mais je suis pas sûr que si on faisait, si on suivait
après,
les personnes
de la vie,
dans leur trajectoire aussi. Personnelle.
C'est vrai que j'ai attendu que les enfants soient grands pour prendre le temps de m'engager. Et aussi,
pardon, madame, je vais la parole.
Répondu juste pour boucler ce que monsieur disait. Est-ce que pour faire preuve de solidarité, on doit forcément s'engager? On ne peut pas être solidaire, avoir un comportement qui tend vers cette notion sans forcément s'engager dans une association ou autre. C'était juste une petite parenthèse, mais je voulais revenir sur la notion d'intérêt dans la solidarité. Je ne comprends pas pourquoi ce serait négatif.
Oui, mais
oui. C'est ça.
Quand j'avais parlé d'égoïsme tout à l'heure, c'était vraiment ce que j'avais en tête. Je ne vois pas pourquoi l'intérêt serait connoté de manière péjorative.
Parce qu'en fin de compte, la neuroscience nous a prouvé qu'entre une personne qui a un acte de beauté ou de solidarité, donc les deux acteurs, celui qui donne et celui qui reçoit, au niveau du cerveau, je crois que ça libère l'endorphine ou je ne sais pas. Mm-hmm. Mais il a été remarqué que même une tierce personne, un observateur, bénéficie de cet effet-là juste par le simple fait d'être témoin, en fin de compte. Du coup, c'est pas forcément négatif qu'il y ait quelque chose qui, en découlant de cet acte-là, surtout si c'est quelque chose qui nous nourrit, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Je sais.
C'est même ça, intelligemment égoïste.
Ok,
c'est ça.
La vue, c'est qu'est-ce qu'on met, on dit assez donnant, mais des fois le donnant, ça peut être juste un sourire, et le sourire, il vaut 10 milliards, alors que d'autres, ça fait 15 heures, et les 15 heures, ça ne vaudra rien, parce qu'il n'y aura pas de générosité, elle sera mal aimable, et puis il y a d'autres personnes qui arrivent avec juste un sourire, ils vont faire la journée de quelqu'un, quoi. Ou un mot, une phrase, moi j'ai déjà eu des spécimens qui sont rentrés dans ma vie 15 secondes, mais la phrase, c'était celle que j'avais besoin d'entendre ce jour-là, et cet acte généreux, la personne, je ne sais même pas si elle s'est rendue compte qu'elle l'a eu, et par contre, pour moi, ça a eu des valeurs énormes, et à l'inverse, il y a eu des actions où on est là par force, ah, si je, il faut, je dois, allez, j'y vais, mais là, on s'épuise, on n'est pas forcément bon, on n'est pas forcément les meilleures intentions du monde, en voulant être le plus généreux possible, on peut renvoyer plein de choses très négatives, finalement. Donc le donnant, il a tellement de formes, et tellement de... Mais je pense qu'on gagne toujours quelque chose, qu'il soit monétaire ou pas, mais ça peut être... Ça peut être une main sur l'épaule, ça peut être vraiment, je te vois, Il y a tellement de gens qui sont invisibilisés dans la société, ça peut être juste un plat, là, d'accord, c'est deux minutes,
reconnaissance.
C'est le cas des enseignants, c'est là, je te vois et je te regarde, et je te, même si je te touche pas, ou je te touche pour certains, ou je te parle, voilà, c'est vraiment des, parfois des toutes petites choses, mais qui ont un prix énorme.
Monsieur, juste une petite remarque. On parlait tout à l'heure, c'est vous qui avez parlé de, du don fiscal. Je crois. Pour moi, le don fiscal, c'est absolument pas de la générosité.
Non, c'est la solidarité.
Même pas. C'est pour payer moins d'impôts. Et se dire, au lieu de payer tant d'impôts, je sais que l'État va donner 75% de ce que j'ai donné, ou 66% de ce que j'ai donné à la succession, ça va aider. Et en même temps, le reste que j'ai donné, au lieu que ça parte je ne sais trop où, je sais, je l'affecte. C'est tout, c'est juste un choix d'affectation, mais ça n'a rien de
solidarité.
Rien de, voilà, exactement. C'est vraiment un choix totalement.
Mais il le fait quand même.
Voilà. C'est la
comment ?
Il le fait quand même.
Ah, il le fait quand même, mais c'est pas la peine qu'après il aille s'en vanter, quoi. Il le fait pour lui. Rentre complètement pour lui. Après, c'est pas la peine d'aller voir les copains et dire, vous savez, moi je donne à Action contre la faim, je donne à machin, je donne à machin, je donne à machin, parce qu'en plus, après, c'est. « Ah, oh, t'es génial, t'es trop bon, t'es trop gentil. » Et en général, la plupart, ils ne donnent pas plus de 500 euros, parce qu'au-delà de 500 euros, il n'y a plus de défiscalisation.
Dans mon esprit, c'est ce que j'appelle la solidarité, que je distingue de la générosité.
Oui, peut-être, d'accord, sur la définition de... Oui, ok, je comprends.
Moi, la solidarité, elle est orchestrée socialement par la puissance publique, par des incitations fiscales. Et la générosité, bah, c'est ce que vous évoquez, madame, avec le simple mot, le simple regard, le simple geste. Elle relève d'une disposition personnelle et avec des guillemets gratuites.
La générosité, ce serait alors de ne pas être imposable et de faire le même don de 500 euros. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mmh.
Ouais, parce qu'il faut pas
le peuvent-ils.
Monsieur. Monsieur, oui, je voulais juste reprendre par rapport à ce que vous disiez, parce que vous parliez d'un acte désintéressé. Et j'arrive pas à le. À visualiser en fait un acte désintéressé. J'arrive pas à comprendre
ce que disait madame, par exemple.
Oui, vous me permettez juste... oui, mais ce que disait madame, c'est aussi intéressé. C'est toujours intéressé. J'arrive pas à saisir pas en fait l'acte désintéressé complètement. Je sais pas où il se situe. Je parle d'un intérêt qui peut être aussi simplement de simplement sentir qu'il y a une personne chaleur. À côté, que je vis une situation agréable. Enfin, ça peut être un intérêt qui peut être tout ça, mais, ouais, mais
je crois qu'on n'a pas défini la notion d'intérêt, en fait. Mm-hmm. Voilà, donc du coup, on s'y perd. L'intérêt, c'est déjà un terme qui nous vient de l'économie. C'est-à-dire un intérêt, qu'est-ce que c'est ? C'est que quand j'investis 50, eh ben, les intérêts bancaires vont faire qu'à la fin, je vais avoir 54. Donc l'intérêt, c'est ce qui m'apporte quelque chose en plus de ce que je n'avais pas. Et dans la logique, je crois, du désintéressé, alors si on revient sur votre idée de bonne action avec Dieu qui me voit le jugement dernier et j'aurai le paradis, on voit bien le bonus quand même, hein. Ce que je fais, le 2, effectivement, c'est un investissement.
Là, c'est pas 54.
Voilà, c'est pas 54. La question est, quand quelqu'un vient, rentre chez moi et me délivre un sourire, est-ce que véritablement c'est fait par intérêt, ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a là simplement une logique désintéressée qui fait que je n'attends rien des conséquences de l'acte que j'effectue ? D'où la question, qu'est-ce qui fait que je vais parler à quelqu'un, que je vais exprimer de la gentillesse, etc. Et là, il me semble qu'on peut revenir sur la logique du fait que nous sommes aussi des êtres sociaux. Et que la solidarité, c'est aussi ce qui fait que nous n'existons qu'en relation. Je crois que dans la solidarité, ce qui est important aussi, c'est la logique relationnelle. Qui est instituée politiquement ? Qui fait qu'une société fondée sur la solidarité n'est pas une société fondée sur des logiques de compétition, voilà, ou d'exclusion même,
et de
prédation, mais qui prend en compte véritablement ce fait que pour vivre, nous avons besoin les uns des autres. Mais donner de manière désintéressée, j'ai presque envie de dire, c'est la corne d'abondance. C'est-à-dire, je suis capable de donner aux autres parce que je porte en moi presque du surplus qui fait que ce que je fais, je le donne. Je donne un sourire, je donne un mot, une gentillesse, du temps, parce que je le donne déjà au départ et non pas parce que je suis en manque. Il me semble que dans la logique de l'intérêt, c'est que je fais les choses parce que je suis en manque. Donc je vais aller chercher chez l'autre ce que je n'ai pas chez moi.
Un calcul.
Un calcul. Mmh. J'ai un mal-être fondamental, ben, je m'engage dans une association parce qu'on m'a dit qu'à ce qui paraît, faire du bien aux autres, ça fait du bien à moi-même. Donc en fait, ce que je cherche, c'est mon propre bien. Mais là aussi, le terme est polysémique. Qu'est-ce qu'on entend par bien ? Est-ce que le bien, c'est du confort ? Est-ce que le bien, c'est une satisfaction personnelle relative à l'image de moi-même ? Ou est-ce que le bien relève véritablement de faire le bien, c'est-à-dire de la morale, de valeur universelle ? Et là, je crois que quand je choisis d'agir pour faire le bien, en fait, je suis en surabondance. Je suis capable, effectivement, de donner sans attendre nécessairement un retour. Si la personne va bien parce que je lui ai souri et que ça lui a fait un bien considérable, que je ne suis pas nécessairement censée savoir, même si elle ne le dit pas. Je ne le fais pas pour qu'elle-même reproduise la chose dans la société. Je crois que la notion de gratuité, elle pourrait venir s'inscrire là.
Oui, vous avez un philosophe contemporain, il est décédé en 2022, philosophe et sociologue et anthropologue, Bruno Latour. Et Bruno Latour, il avait cette phrase, c'était dans la grande librairie. Je me souviens très bien parce que ça m'avait vraiment marqué. C'était même pas dans un de ses bouquins. Il me dit, il m'a interrogé, il me dit Je dépends du vivant, je dépends d'autrui. Et c'est ça qui me libère et qui me permet d'agir. Autrement dit, on l'impression que c'est lorsque je suis indépendant que je peux être libre et me donner les moyens d'agir. Et Latour me dit, mais non, la dépendance, elle est originelle. La dépendance, elle est constitutive de la condition humaine. Je dépends du vivant, ça c'était la grande idée de Latour, de la zone critique, je ne l'évoque pas. Je dépends d'autrui, ne serait-ce que par ma naissance, mon éducation, mais je dépends d'autrui, comme tu l'as dit, parce que nous sommes des êtres fondamentalement relationnels. Et c'est parce que j'accepte de dépendre des autres et j'en prends conscience que je peux me libérer de tous mes manques et que je peux me donner, alors, de manière désintéressée, gratuite, c'est bien, sans calcul mercantile ou recherche lucrative, c'est parce que j'accepte de dépendre que je peux me libérer de mes manques et que je peux me donner pleinement à l'autre. Autrement dit, c'est la dépendance et la conscience de la dépendance qui permet précisément l'autonomie et qui permet l'estime de soi. Le dernier mot, ça sera vous, parce qu'il est 50 et qu'à 19h...
19h, on doit être dans le hall d'entrée, là où il y avait le petit salon, voilà, pour le discours des élus.
Moi, je voudrais juste parler d'une loi de la physique qui est l'interaction. Donc, vous avez parlé de relation entre les êtres. Donc l'interaction entre les êtres, est-ce que ce n'est pas une loi de la nature qui dit que lorsque je fais quelque chose, il y a quelque chose en retour, qu'il soit bon ou pas bon? Et que quand vous donnez un sourire, s'il n'y a pas une réaction avec un sourire de l'autre côté, vous ne vous sentez pas si bien. Vous avez donné un sourire, l'autre il reste avec deux marbres, bah vous ne vous sentez pas bien. Donc quelque part, vous attendez un sourire aussi. Il n'y a jamais de... Enfin, je ne sais pas, je pense que l'interaction, elle est naturelle dans le sens où... Après, quand on parlait du bénévolat, moi je pensais vraiment à sans argent. C'était pas... Ça peut être désintéressé, mais sans argent. On attend quand même quelque chose. Et on a peut-être envie ou besoin d'avoir quelque chose.
Parce qu'on prend conscience qu'on dépend des autres. De chacun.
Alors, pour conclure, tu veux ? Ouais. Là, je rebondirais peut-être sur cette idée, c'est-à-dire... Si l'autre ne me sourit pas, je peux me sentir mal. Mais effectivement, si l'autre ne me sourit pas, ça relève de lui. Enfin, c'est son problème. Le mien, encore une fois, c'est de savoir la manière par laquelle je veux me comporter. Et j'y reviens, je crois, à la société dans laquelle j'ai envie de vivre. C'est-à-dire, agir pour soi ou agir pour les autres, faut-il choisir ? Je crois que non. En fait, ce que l'on doit choisir, plus globalement parlant, c'est dans quel type de communauté nous voulons vivre. Et cette notion de bien, qu'est-ce que c'est qu'une société qui est justement ou qui est organisée selon le bien, qui est une bonne société? Cette bonne société, elle détermine aussi la manière par laquelle moi je suis une bonne personne. Bonne personne, ça ne veut pas simplement dire avoir une bonne image de soi, mais ça veut aussi, donc quelque chose de narcissique, mais ça veut aussi dire quelque chose dans lequel je me reconnais comme étant moi et je n'ai pas à rougir de l'être que je suis en adéquation avec moi-même. Et je crois que c'est là que réside en fait la notion de joie qu'on va utiliser. C'est-à-dire, là, effectivement, je suis en joie. Est-ce que ça, c'est un intérêt ou pas? Je crois que non, c'est pas un intérêt, c'est un achèvement. C'est une réalisation de soi, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et cette réalisation de soi, elle demande un effort pour nous. Parce qu'effectivement, on peut être tiré vers le nihilisme, on peut être tiré vers la tristesse, on peut être tiré vers l'idée d'un renfermement sur soi, etc. C'est un travail constant de réajustement en vue d'être quelqu'un de bien pour participer à une société qui elle-même doit être une société bien. Donc c'est un travail constant et sur soi et d'engagement de soi, mais qui est aussi un engagement politique. Et qui fait qu'effectivement la société, elle peut être mercantile par certains côtés, mais s'il n'y a pas ça, elle ne fonctionne pas, elle ne tourne pas. Que ce soit au sein des associations, quelque chose de visible, ou au sein de l'invisibilité, de la famille, de l'amitié, on n'en a pas parlé, mais à quel point les amis donnent, j'ai envie de dire, sans compter, si ce n'est le partage même de l'amitié, le partage de l'amitié. Voilà. Et donc, c'est là-dessus que je
parle. Un proverbe indien qui me vient à l'esprit, c'est très très court. La rivière ne boit pas son eau. La rivière ne boit pas son eau. Là-dessus, je vous laisse méditer.
Merci.